Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La vie sauvage à la une, l'homme l'a fait disparaître, saura-t-il la protéger désormais? Congrès mondial à Marseille pour sauver la biodiversité, les enjeux sont immenses, on va voir ça dans un instant. Nature, climat, relance verte, on en parlera tout le week-end et notamment sur France Inter dimanche. Pour le premier débat de la primaire Europe Écologie Les Verts, 5 candidats à départager. Abstention, anti-vax, gilets jaunes, mais pourquoi les Français sont-ils aussi défiant. Ça, ce sera le sujet du grand entretien, Nicolas.
Avec l'historien et sociologue Pierre-Rosan Vallon, aujourd'hui professeur émérite au Collège de France. Il publie Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français, guide très utile en cette année présidentielle. C'est aux éditions du Seuil. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015, répétition générale cette semaine à Paris avant son ouverture mercredi prochain. France Inter y était. Dans ce journal aussi, New York et sa région après le chaos, 41 morts dans les inondations de la nuit dernière, les arnaques aux livraisons de colis de plus en plus fréquentes, et la rentrée littéraire, les malvoyants et les dyslexiques qui ont droit aussi, grâce à une association qui fait entendre les livres gratuitement.
France Inter.
Où sont les oiseaux, les poissons et les espaces encore vierges? Chaque année moins nombreux et pas de mystère. On connaît les coupables, déforestation, béton, pesticides et surpêche. Le congrès mondial de la nature qui s'ouvre aujourd'hui à Marseille pour 10 jours pourra-t-il soigner la vie sauvage? 4000 participants attendus au chevet de la biodiversité. Bonjour Célia Quiret.
Bonjour Florence.
Vous êtes à Marseille où l'on attend des solutions pour limiter les dégâts.
Oui, car le constat a déjà été dressé par les scientifiques. Près de 500 000 espèces d'animaux et de végétaux risquent de disparaître. La question est de savoir comment éviter cette sixième extinction. Protéger par exemple 30% des terres ou des mers de la planète, voilà une piste, mais on en est loin. Aujourd'hui, seuls 17% des espaces terrestres et 8% de l'océan sont sous protection. La nature doit devenir une priorité, estime Sébastien Moncor, le directeur du Comité français de l'Union internationale de conservation de la nature.
Aujourd'hui, la crise de la biodiversité est aussi grave que la crise du changement climatique. Les écosystèmes, si on les préserve, sont des grands réservoirs naturels de carbone qui captent et stockent gratuitement pour nous le carbone. Aujourd'hui, quand on voit l'augmentation de cette fréquence des catastrophes naturelles, les incendies, les inondations, les sécheresses, les canicules, l'érosion côtière, la nature est pourvoyeuse de solutions. Nous demandons à investir dans la protection de la biodiversité comme si nous investissions dans une assurance santé.
Investir, Célia, mais il faudrait des milliards.
Oui, il faudrait 800 à 1000 milliards de dollars chaque année pour la biodiversité, 5 fois plus que les montants d'aujourd'hui. Mais cela nous aiderait à lutter contre le réchauffement et à prévenir de nouvelles pandémies. Or, les ONG le répètent, il ne suffira pas de protéger 30% de la planète. Ici, à Marseille, les défenseurs de la nature vont demander aux États de limiter les financements néfastes à la biodiversité, comme les aides à l'agriculture intensive ou la surpêche. Les organisateurs veulent sortir de ce congrès avec le message de Marseille que les États consacrent 10% de leur plan de relance à des actions en faveur de la nature. Ce serait déjà un très grand pas.
Célia Quiret à Marseille. Et justement, penchons-nous sur notre plan de relance en France, lancé il y a pile un an. 100 milliards d'euros promis pour sortir de la crise du Covid, dont 1 milliard d'euros destiné à la transition vers une agriculture plus verte. La profession a déjà commencé à en profiter pour revoir ses méthodes et notamment utiliser moins de pesticides. Manuel Ruffez.
Il feuillette le catalogue avec un grand sourire. C'est la brochure du nouveau et très moderne pulvérisateur qu'il vient de commander.
Pour pouvoir réduire l'utilisation des intrants, il faut être précis. Donc il y a du GPS, il y a un suivi du terrain automatique. Et puis tout ce qui est rinçage du matériel et nettoyage se fait automatiquement. Et on n'a plus à revenir à l'exploitation. On peut tout gérer. Il n'y a plus du tout de risque de pollution.
Cyril Millard cultive céréales et betteraves dans le centre de la Seine-et-Marne. Grâce au plan de relance, il va toucher 25 000 euros d'aide sur les 85 000 que coûte cet équipement. Il va aussi profiter d'une autre ligne budgétaire pour planter des haies.
Je vais replanter à peu près 1,5 km de haies sur 3 parcelles qui sont assez grandes, font 25 hectares. Je vais les couper en deux chacune pour réinstaurer de la biodiversité.
Cyril Millard, qui est aussi président de la FDSEA de son département, a bien mesuré l'engouement des agriculteurs pour ce plan de relance.
La rentabilité de nos exploitations depuis 5 ans, voire peut-être plus pour certains, est très limite. Et ça nous empêche de renouveler notre matériel, donc le plan de relance ça a permis de de donner un petit peu de coup de pouce à nos investissements, à nos renouvellements.
En 3 semaines, affirme-t-il, l'enveloppe était entièrement distribuée.
Voilà, biodiversité, agroécologie, autant de mots chers aux écolos en route vers leur primaire des 16 et 19 septembre. 5 candidats à départager par les sympathisants au moyennant 2 euros et une charte des valeurs à signer. Leur premier débat aura lieu dimanche sur France Inter entre midi et 13h. Mais qu'est-ce qui les différencie sur le fond, au juste, Laurence Perron?
Il y a d'abord le vilain petit coucou, Jean-Marc Governatori, le centriste suspecté de vouloir faire son nid dans celui d'Europe Écologie Les Verts, qui a sa façon bien à lui de parler de l'écologie.
Les projets de société échouent parce qu'ils font l'impasse sur le condor, sur le ver de terre, sur la poule et sur le potager. Alors vous allez vous dire, Governatori, il a fumé la moquette.
Les écologistes n'en voulaient pas pour leur primaire, c'est la justice qui l'a repêché. Extérieur au parti aussi, l'éphémère ministre de l'écologie de François Hollande, la députée Delphine Bateau, présidente de Génération Écologie, redoutable en débat, elle prône une écologie intégrale qui passe par la décroissance.
La décroissance implique une rupture autant avec l'ultralibéralisme qu'avec le marxisme.
Sur des positions en réalité assez proches, Sandrine Rousseau, elle a dominé le grand oral aux journées d'été des Verts avec un programme de rupture avec le capitalisme.
Je sais que vous êtes comme moi, résistant et résistante, alors je vous propose qu'on se lève, qu'on ose et qu'on y aille.
Très proche politiquement, le maire de Grenoble, Éric Piolle.
Une écologie de l'esprit. Radical.
Le favori des sondages, Yannick Jadot, a musclé sa jambe gauche et ne laissera dire à personne qu'avec un plan de 100 milliards d'euros sur le mandat, il n'est pas lui aussi radical en écologie.
Nous devons extirper les lobbies.
Des nuances de vert, il y en a, mais toutes et tous se sont engagés en cas de victoire à reprendre le programme d'Europe Écologie Les Verts.
Voilà, le premier débat de la primaire Europe Écologie Les Verts, dimanche de midi à 13h30 sur France Inter.
Et nous voici de retour à Marseille, Florence. Il est 8h07, où Emmanuel Macron se trouve depuis mercredi.
Il participera ce soir à l'inauguration du Congrès pour la Nature, après avoir longuement parlé de son ambition pour la vie. Hier, créer 3 nouvelles lignes de tramway et automatiser 2 lignes de métro qui existent déjà. Il a confirmé des moyens pour les hôpitaux et le logement, 1,5 milliard d'euros d'aide de l'État, sans compter le budget pour rénover les écoles qui sera défini plus tard. Mais le président a aussi insisté sur les problèmes de gouvernance locale et sur les grèves et l'absentéisme dans les services publics de Marseille. Eh bien, l'ancienne maire de la ville, Michèle Rubirola, aujourd'hui première adjointe, ne lui donne pas tort.
Je pense qu'il y a toute une administration avec laquelle il faut retravailler, redonner confiance. Ça fait sa part par le personnel des écoles, les associer à des projets. Je pense que quand on donne envie aux gens, quand on reconnaît le travail des personnes, les personnes ne se mettront pas en arrêt de travail. Et je crois que c'est ça contre lequel on veut lutter. On veut arrêter les petits arrangements entre amis, on veut arrêter le clientélisme. C'est quelque chose qu'on va mettre en place. On a déjà commencé à le remettre en place. Quand le président de la République travaille avec les principaux concernés, ça peut être quelque chose qui ne peut que marcher, plutôt que des décisions verticales, complètement déconnectées de ce que peuvent vivre les personnes, ce que peuvent connaître les personnes. Donc, travailler avec les gens de terrain, c'est quelque chose qui est très positif. Mais c'est vrai que là, ça serait malhonnête de ma part ou alors hypocrite de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit.
La Michèle Rubirola avec Nicolas Taillard. Trop de grèves et d'absentéisme. On imagine que d'autres à Marseille n'ont pas très bien pris les propos du président. Et on ne se trompe pas, Hugo Charpentier.
Cécile Baron est membre du collectif des écoles de Marseille et devant sa télévision, en entendant Emmanuel Macron, cette parent d'élève a bondi littéralement de son canapé.
Moi, j'ai été choquée.
Selon elle, les propos du président de la République ne tiennent pas la route.
Ces grèves, elles sont justifiées par le fait qu'on a le plus faible taux d'encadrement de France sur la pause méridienne. Donc à Marseille, on est avec un adulte pour 25 enfants en maternelle et un adulte pour 50 enfants en élémentaire. Je ne sais pas si Monsieur Macron a essayé de surveiller 25 enfants dans une cour de récréation à lui tout seul, mais je suis persuadée qu'il aurait des difficultés et que peut-être lui-même se mettrait en grève.
Dans cette déclaration, Emmanuel Macron vise tout particulièrement Force ouvrière, syndicat majoritaire parmi les agents municipaux. FO, accusé de faire la pluie et le beau temps depuis de longues années dans la cité phocéenne. Voilà qui provoque la colère de Patrick Ruet, le patron du premier syndicat de la ville.
À un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière des accusations qui n'ont pas lieu d'être et de regarder les vraies choses. Si de défendre des agents et c'est de faire du clientélisme, oui, alors là, nous défendons des agents coréens. Donc pour nous, ça s'appelle du syndicalisme, tout simplement.
Depuis plusieurs mois, la situation semblait sur de bonnes voies. La mairie et les syndicats ont en effet trouvé un accord en début d'année pour limiter les grèves à répétition.
Et voilà, et pour faire le point sur les avancées concrètes des chantiers qu'il a lancés, Emmanuel Macron reviendra en octobre et février à Marseille. Lui aussi va faire le point 2 ans après le Grenelle contre les violences conjugales. Jean Castex avec 3 ministres attendus dans la Manche pour accélérer la lutte après les dysfonctionnements des services de l'État constatés cet été après plusieurs féminicides.
Il est 8h10, ce sera Florence, le plus grand procès jamais organisé en France.
Mercredi prochain au Palais de Justice de Paris sur l'île de la Cité, on jugera pour 9 mois les responsables encore vivants des attentats du 13 novembre 2015. Une vingtaine d'accusés dans le box, des centaines de victimes et leurs familles, des centaines d'avocats, de journalistes, de policiers, de gendarmes. Tout cela méritait bien une répétition générale pour voir si tout est prêt après 2 ans de travaux et de préparation. Elle a eu lieu cette semaine et vous y avez assisté, Jean-Philippe Degnaud.
Certains étaient partis civils, d'autres avocats ou journalistes. 2 techniciens en télécommunication ont même été désignés pour jouer le rôle des accusés. On a même vu soudain un figurant simuler un malaise. Un gendarme s'est précipité vers lui, a prévenu les secours. L'homme a été pris en charge dans un temps raisonnable. C'était là aussi un test. Un peu avant 11h, le président de la cour d'assises, dépourvu de sa robe pour l'occasion, a ouvert cette audience fictive comme il le fera pour de vrai mercredi, avec l'interrogatoire d'identité pour chacun des accusés et l'appel des parties civiles qui, dans la réalité du procès, durera 2 jours. Mais ce jour-là, il s'agissait surtout de vérifier les dispositifs de sécurité, la fluidité des déplacements, la clarté de la sonorisation et de tester la réalisation du film qui captera l'intégralité de ces 140 journées d'audience pour un documentaire fleuve qui rejoindra les archives historiques de la justice. Une pression supplémentaire sur les épaules des organisateurs de ce procès qui devra être exemplaire.
Voilà pour ce procès des attentats du 13 novembre à partir de mercredi prochain à Paris. Dossier très riche à consulter sur franceinter.fr, alors qu'on apprend ce matin qu'en Nouvelle-Zélande, un terroriste proche du groupe État islamique a poignardé 6 personnes dans un supermarché d'Auckland. À New York, on se remet avec effarement des inondations de la nuit dernière. 11 morts dans la ville, 41 dans la région. Jamais il n'était tombé autant de pluie. Il reste encore 1 mètre d'eau par endroit. Les habitants du New Jersey doivent continuer à être prudents, alerte leur gouverneur Phil Murphy.
La majorité des décès, ce sont des gens qui ont été piégés dans leur voiture par les inondations et la montée des eaux. Nos pensées et nos plus profondes prières vont à leurs familles. Voyager dans ces conditions est extrêmement dangereux et potentiellement mortel. Je dirais simplement aux gens de rester hors des routes. Nous n'en sommes pas encore sortis. Restez à la maison si vous y êtes en sécurité. Trop de familles pleurent déjà la perte tragique d'un être cher.
Le métro de New York, spectaculairement douché, a partiellement redémarré. Ça aurait pu très mal se passer. Juillet dernier, Richard Branson embarque sur son vaisseau spatial Virgin Galactic pour un petit tour dans l'espace. C'était une première et ce fut un triomphe. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que le vol a connu de graves incidents qui auraient pu compromettre son retour sur Terre. Des alertes de sécurité se sont allumées dans le cockpit et le vaisseau est aujourd'hui cloué au sol pour 2 mois sur ordre de l'Agence américaine de l'aviation. C'est un SMS ou un mail qui vous parle d'un colis à récupérer avec en tête de la Poste, Colissimo ou DHL. Mais il faut payer car c'est une arnaque de plus en plus répandue puisque nous consommons toujours plus sur Internet. Mélanie Juvet.
Dans le Vaucluse, Cécile a été victime d'une arnaque au colis. Cette comptable de 27 ans qui a des notions en informatique attendait en urgence un pull pour son fils commandé sur Internet.
J'ai reçu un SMS comme quoi le colis était bien retenu dans le lieu où on habite et qu'il manquait 1 € d'affranchissement. Sinon, on ne recevrait pas le colis pressé. J'ai validé, donc c'est 1 €. Et puis en fait, il y a eu 170-180 € de prélevés.
Cécile a pu finalement se faire rembourser, mais comme elle, des dizaines de personnes témoignent sur les réseaux sociaux s'être fait usurper leurs coordonnées bancaires. Un fléau pour les entreprises. Gabriel Debrosse est directeur de la cybersécurité au groupe La Poste.
On a un centre de cybersécurité qui surveille toutes les créations de sites utilisant des logos de La Poste. On en fait fermer pour le colis 100 par semaine au minimum.
Mais alors, comment débusquer la fraude? Plusieurs réflexes peuvent vous alerter, explique Baptiste Robert, un hacker éthique. Il aide les entreprises à trouver leurs failles informatiques.
Vérifier qui vous envoie ce message-là, quel est le numéro, le nom donné à l'expéditeur, parce qu'il y a des fautes d'orthographe. Est-ce que c'est usuel de vous demander de cliquer sur un lien?
L'année dernière, plus de 17 800 demandes d'assistance pour ce type d'arnaque appelée phishing ont été adressées au site du gouvernement, cybermalveillance.fr. malveillance.gouv.fr.
Pas facile pour les grandes nations du foot, ces éliminatoires du Mondial 2022 après le match nul de la France face à la Bosnie avant-hier. C'est l'Italie, championne d'Europe, qui n'a pas fait mieux hier soir 1-1 face à la Bulgarie quand l'Espagne, demi-finaliste de l'Euro, a perdu 2-1 contre la Suède. À l'US Open de tennis, il n'en reste qu'un chez les Français, c'est Gaël Monfils qui s'est qualifié pour le troisième tour cette nuit en battant l'Américain Steve Johnson. Et puis une huitième médaille d'or à Tokyo aux Jeux Paralympiques autour du coup de Kevin Lequinf, sacré champion de paracyclisme en course sur route. Enfin, ça n'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on a droit qu'au classique de la littérature, la rentrée littéraire en version audio. Ça existe et en plus c'est gratuit, on ne le sait pas assez. Depuis des années, l'association Valentin Ahuy œuvre pour ceux qui ont du mal à lire, ce qui est assez formidable, Ilana Moriousef, il faut le dire, quand on est atteint d'un problème oculaire ou bien de dyslexie.
Dans les rayonnages, il n'y a pas de livres papier et pourtant, ici, à l'association Valentin Ahuy, chaque année, fin août, Laura Tuzan, responsable de la médiathèque, propose les mêmes nouveautés qu'en librairie.
Nous faisons en sorte de disposer des manuscrits avant leur sortie en librairie, de façon à les enregistrer et à pouvoir, le jour même de la sortie en librairie, proposer ces titres. Ça permet de fournir des livres enregistrés accessibles à toutes les personnes qui, du fait d'un handicap, ne peuvent pas lire le livre papier.
Les livres sont disponibles sous format de fichiers audio à télécharger ou de CD envoyés aux abonnés. C'est totalement gratuit. Jean-Yves Quéros, malvoyant depuis la naissance, est lecteur assidu.
J'adore les romans dont tout le monde parle. Grâce à ce service, on va avoir cette possibilité de toujours rester dans le monde dans lequel les autres vivent.
Mendy Bengoubou, elle, s'est inscrite pour sa fille de 14 ans, dyslexique. En raison de ses difficultés, l'adolescente n'arrivait pas à terminer à temps les livres au programme.
Je rentre sur le site EOL, je rentre mon identifiant, mon mot de passe, et je cherche dans le moteur de recherche le livre que lui a donné son professeur de français à lire. Et je le trouve, j'ai toujours tout trouvé. Je télécharge sur mon téléphone et ensuite je le lui envoie sur le sien de téléphone.
Une solution qui a changé la vie de la collégienne.
Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour écouter la rentrée littéraire. Ça se passe évidemment sur France Inter et donc dans le détail, ligne par ligne, mot par mot, grâce à l'association Valentin Ahuy.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Marie-Pierre, les orages s'intensifient dans le sud.
Et oui, Nicolas, dès ce matin, on a en fait une dépression qui remonte sur le golfe de Gascogne et une autre qui se positionne entre les Baléares et la Sardaigne. Donc ça remonte sur tout le pourtour méditerranéen jusqu'en Corse et du sud-ouest au massif central jusqu'aux Alpes. On a des averses ce matin qui sont assez nombreuses et une zone plus nuageuse entre les pays de la Loire, le Jura et au nord de la Loire. Eh bien, le soleil va résister ce matin avec de la fraîcheur comme dans le nord-est, en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle ou dans les Vosges. Il fait seulement 7 degrés alors que vous avez 24 à Toulon.
Les orages vont remonter ensuite plus au nord dans l'après-midi.
Oui, on va les retrouver jusqu'aux Charentes, au Massif central et de la Franche-Comté aux Alpes. Et il faudra surveiller ces orages plus marqués autour de la Méditerranée, du Golfe du Lion à la Corse. Puis on aura une zone tampon encore entre les pays de la Loire au centre où quelques moutons nuageux viendront se dessiner. Même en région parisienne où le ciel sera un petit peu moins bleu qu'hier, mais le temps restera estival jusqu'à la Manche. Et ça jusqu'à mardi, hein, je vous le dis entre parenthèses. On atteindra enfin les 20 degrés à Cherbourg. Comptez 24 sur les plages normandes et picardes, 24 à Quimper également comme à Bordeaux, 25 à Rouen comme à Marseille, pas de jaloux, 27 à Paris et Strasbourg, 29 à Troyes comme à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter 8h18, Géopolitique.